Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Et c'est reparti pour le Carnet Région, l'actualité en région langue de Croussillon avec de nombreuses radios associatives qui s'associent pour vous proposer différents sujets avec, pour présenter ce magazine, Romain Bercher. Romain, bonjour.
Bonjour Cédric et bonjour à tous. Une étude inquiétante dans ce Carnet de Région, deux chercheurs montpelliérains démontrent le lien entre la pollution environnementale et les malformations génitales. Radio Aviva nous dira tout dès le début de ce Carnet de Région. Nous irons crapahuter en Lozère, la Via Ferrata de Malzieuville a été réinaugurée. Des aménagements pour les déficients visuels et les non-voyants ont été réalisés. Explication avec 48 FM. Nous parlerons également climat. Paris accueille à la fin de l'année la COP21, la conférence internationale sur le climat. Elle se prépare un peu partout dans le monde et notamment dans l'Hérault. Un carnet de région sans parler du pont du Gard, ce ne serait pas un carnet de région. Eh bien, on va en parler. Le célèbre monument fête cette année ses 30 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Ce week-end, place aux féeries, un sujet de Delta FM.
C'est le carnet de région.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Et c'est Radio Aviva qui ouvre le bal de ce carnet de région.
Oui, attention Cédric, une étude effrayante. Deux chercheurs montpelliérains démontrent le lien entre l'exposition à un environnement pollué pendant la grossesse et une malformation génitale chez le jeune garçon. Une malformation dont la fréquence est de plus en plus grande, particulièrement ici, dans le sud de la France. C'est donc un sujet de Gilles Geoffrey pour Radio Aviva.
Le chirurgien pédiatrique Nicolas Calfa et l'endocrinologue pédiatrique Charles Sultan du CHRU de Montpellier présentaient lundi 8 juin les résultats d'une étude fracassante. Étude qui démontre un lien entre l'évolution de parents dans un environnement exposé à certaines pollutions et une malformation génitale qui peut se manifester chez leur enfant. Avoir des parents exposés aux peintures, aux solvants, aux détergents et aux pesticides augmenterait chez le garçon le risque de naître avec un hypospadias. L'hypospadias étant une malformation de la verge qui se soigne mais qui peut entraîner à l'âge adulte une infertilité. Nicolas Calfa nous explique comment a été menée cette étude.
Très concrètement, on a étudié plus de 700 enfants. On a d'abord vérifié qu'il n'y avait pas de cause génétique à ces malformations. Ça a été le cas de 100 d'entre eux, ils ont été sortis de l'étude. Et sur les 600 restants, il y avait 300 enfants porteurs d'une malformation de la verge, l'hypospadias, et 300 enfants qui ne l'étaient pas. C'est en comparant l'environnement de ces enfants et de ces grossesses qu'on a pu travailler. On a déterminé au bout de 5 ans de travail que l'exposition de ces femmes enceintes au moment de la formation du fœtus, fin du premier trimestre, deuxième, début du deuxième trimestre, à des produits tels que les peintures, les solvants, les pesticides, tels que les détergents, eh bien cette exposition augmentait le risque de malformation et le multipliait à peu près par 3.
Un risque de malformation multiplié par 3 donc et qui constitue pour le professeur Charles Sultan un véritable problème de santé publique. Charles Sultan en appelle donc à une réaction politique.
Ce n'est pas un signal d'alarme, c'est un cri. Prenons, s'il vous plaît, en cause. Tous les travaux, il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres qui vont dans le même sens. Prenons en cause tous ces travaux qui rapportent l'impact de l'environnement, faute de quoi nous allons à la catastrophe. C'est une sonnette d'alarme, non pas pour les mamans, c'est une sonnette d'alarme pour les politiques. Car je vous rappelle, et j'ai été heurté, choqué, alors même que le Grenelle de l'environnement programmait une réduction de 50% en 2016 ou en 2018, que M. Le Foll, notre ministre, un homme responsable, a priori, au demeurant, et laisser la production et la vente de pesticides augmenter de 11% l'an dernier.
Le professeur Sultan pourra prochainement exposer ses résultats devant la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les deux ministres souhaitent en effet rencontrer les chercheurs. Reste à savoir s'ils seront entendus.
Mobilisation contre le projet Oxylane du groupe Decathlon à Saint-Clément-de-Rivière, Romain.
Oui, le projet de village Oxylane prévoit notamment la création d'une vaste zone commerciale comportant 3 grandes enseignes sur 24 hectares de terre encore cultivée. Saint-Clément-de-Rivière, c'est à 10 km au nord de Montpellier. Un sujet de Carla Dedieu de RPH Radio Pays d'Hérault.
C'est à Saint-Clément-de-Rivière, sur une surface de 23,5 hectares de terrain agricole et de surface boisée, entre la route de Ganges et la route de Bissy, que le village Oxylane verrait le jour. La grande majorité de cette surface accueillerait des complexes sportifs. Terrain de sport en libre accès, pistes de roller, parcours de cross ou encore aires multijeux. Au centre du village, dans la partie urbanisée, plusieurs enseignes du groupe Decathlon seraient présentes et proposeraient à tout un chacun d'essayer divers équipements sportifs. À leur côté, des partenaires qui mettraient en place des structures de football et de golf en salle ou encore de fitness. Une partie de l'espace boisé serait aménagée en un parcours vert où l'on pourrait se promener librement. La mairie de Saint-Clément-de-Rivière s'est prononcée sur ce projet qu'elle prépare depuis 7 ans. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le club Cœur Poumon Nature Santé Bien-être s'est créé afin de s'adresser à tous les âges avec un objectif, être et rester en forme. Sur le plan juridique, une étude publique doit être réalisée afin de délivrer ou non le permis d'aménager. Elle se déroule actuellement à Saint-Clément-de-Rivière jusqu'au 27 octobre. L'étude d'impact obligatoire a été réalisée par l'autorité environnementale le 18 juin 2014, suite à quoi celle-ci est restée neutre. Comprenez, ni favorable, ni défavorable. L'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial a été obtenue le 25 novembre dernier, de justesse. 5 représentants sur 8 se sont prononcés pour. Le représentant du conseil général a voté contre la réalisation de ce projet, tandis que la représentante de la mairie de Montpellier s'est, elle, abstenue. L'enquête publique ne s'arrête pas là, le conseil général a donné son autorisation préalable à la création d'un rond-point en sortie de la route de Ganges et de la route de Bissy. De même, un arrêt préfectoral a été publié autorisant à terme le défrichement de 6000 m² d'espaces boisés. Pour rappel, Gérard Onesta, vice-président du conseil régional Midi-Pyrénées et tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour les prochaines élections régionales, s'est prononcé contre ce projet. Le député européen du Sud-Ouest et membre de la commission agriculture du Parlement européen, José Bové, s'insurge lui aussi. Il nous explique son opposition.
Alors écoutez, ce projet est un projet, une fois de plus, qui va artificialiser sur 25 hectares, il y en a au minimum 15 hectares qui vont être complètement artificialisés dans une zone agricole de périphérie, proche d'une trame verte. Et donc, ce projet aujourd'hui, c'est une extension urbaine et c'est la construction de nouveaux commerces dont on n'a pas besoin. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je suis très surpris de voir que sur les 3 projets, c'est-à-dire Decathlon, Otera et Truffaut, le même propriétaire a 2 des 3 enseignes. Donc on est là encore, une fois de plus, dans de la spéculation. Ça se fait contre les habitants. Ça se fait contre les consommateurs et ça se fait au détriment de l'environnement. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, je pense que ce projet doit être abandonné et j'appelle tous les élus à soutenir les associations et les habitants qui luttent contre ce projet.
Sur le volet économique et notamment au chapitre de l'emploi, José Bové est catégorique. Pour lui, cet argument ne justifie en rien l'artificialisation des terres.
C'est toujours la même tarte à la crème. On nous annonce chaque fois qu'un projet de ce type se met en place, X emplois à la clé. Et donc, au nom de l'emploi, on doit tout sacrifier, on doit tout détruire. Je rappelle qu'il y a un département agricole, en termes de surface cultivée, qui disparaît tous les 7 ans en France, à force de la multiplication des zones artisanales, des zones commerciales, de l'urbanisation et des constructions de routes. Est-ce qu'on a besoin de ça en plus? Je pense qu'aujourd'hui, on peut créer de l'emploi de proximité, avec une agriculture de proximité, des circuits courts, sans être obligé d'organiser encore des temples de la consommation dont on a déjà assez d'exemplaires autour de Montpellier, et notamment ces antennes, ces mêmes magasins qui sont déjà positionnés dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, dire qu'on va créer de l'emploi de manière massive, ce n'est pas vrai. On va surtout, éventuellement, s'il y a des emplois, créer des emplois qui seront souvent des emplois dégradés au temps partiel de vendeurs ou de caissières. Et donc, malheureusement, je crains qu'une fois de plus, on agite la création d'emplois pour faire passer des intérêts particuliers qui vont contre l'intérêt général.
Voilà, c'était un sujet de Carla de Dieu de Radio Pays d'Hérault. Nous parlons de climat pour la suite de ce carnet de région, Romain.
Oui, en début de semaine, le G7 réuni en Allemagne s'est engagé à limiter le réchauffement climatique de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Aucune action concrète pour y parvenir n'a été proposée. L'objectif, c'est toujours, vous le savez, cette fameuse COP21, cette conférence climat qui sera organisée à la fin de l'année à Paris. Les discussions pour contribuer à cette conférences ont commencé un peu partout dans le monde. Et ici, dans l'Hérault, le forum Désertif Action s'est ouvert à Montpellier. Jeu de mots volontaire pour enjeux planétaires. La désertification, une question souvent oubliée de ces grands sommets climatiques. D'où les regrets de Patrice Burger, c'est le directeur du Centre d'Action et de Réalisation Internationale. C'est lui qui est à l'origine de ce forum.
Il existe une convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. C'est une de ces fameuses trois conventions dites de Rio, qui sont sorties de Rio 92. On parle beaucoup de celle du climat, on parle aussi de celle de la biodiversité. On ne parle pas assez de la désertification. Et c'est aussi un petit peu à cause du titre, parce que désertification, pour les gens, pour nos imaginaires d'occidentaux, c'est lutter contre le sable, l'avancée du sable, et on a des images un peu exotiques, du type palmier, etc., et dunes. Ce n'est pas du tout ça.
C'est pas que ça, donc ?
Non, ce n'est pas du tout ça. Le processus de désertification est un processus de dégradation des terres, c'est-à-dire un processus qui, sous l'effet de la chaleur, de la sécheresse et des mauvaises pratiques agricoles, dégrade la qualité du sol, dégrade sa capacité à filtrer l'eau et à faire vivre sa biodiversité, et donc dégrade tous les systèmes. Donc la désertification est en réalité une perte du potentiel du sol à produire toutes les richesses que l'on tire des ressources naturelles.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Nous prenons maintenant la direction de la Lozère où la semaine dernière à Malzieu-Ville a été réinaugurée la Via Ferrata.
Oui, réinaugurée puisqu'il y a eu des aménagements, notamment pour les déficients visuels et les non-voyants. Une première au niveau national. L'objectif de ce dispositif, initié en 2011 par la direction départementale de la protection des populations de la Lozère, eh bien, c'est de donner le maximum d'autonomie aux personnes en situation de handicap visuel et notamment dans le domaine du sport en pleine nature. Écoutez Emmanuel Solignac qui travaille à cette direction départementale de la Lozère.
En termes d'aménagements qui ont été conçus spécifiquement pour les personnes déficientes visuelles, on a installé un équipement sur la Via Ferrata avec 22 balises qui permettent de déclencher un message audio quand la personne arrive à proximité de cette balise. La personne malvoyante est équipée d'un smartphone qu'elle a accroché à son bras grâce à un brassard et qui permet de déclencher ce fameux message audio pour l'aider dans l'évolution dans la Via Ferrata. En complément, on a également réaménagé la Via Ferrata pour faciliter l'évolution des personnes déficientes visuelles en rajoutant quelques éléments par rapport à la configuration initiale.
Et ce parcours a été réfléchi et mis en place avec des personnes malvoyantes et non-voyantes, dont Anaïs Gerbaille. Elle était présente lors de cette inauguration et elle a pu tester le dispositif en avant-première.
C'est vraiment super, on est guidé, on sait vers où il faut partir, vers où il faut chercher, dans quel sens il faut se tourner. Et c'est vraiment bien, ouais. ça aide beaucoup.
Tout à fait à gauche, il s'agit d'un barreau pour les mêmes. À sa droite, une rampe pour les mêmes. Puis, une queue de cochon. Ce matériel signifie que vous devrez faire le changement de mousqueton. Ensuite, sous le panneau, touchez avec vos pieds les équipements qui vous aideront à progresser.
Bon, je vois la différence entre la première fois où je l'ai fait et aujourd'hui avec le dispositif, c'est super, vraiment. Quand il y a un pont de singe, un câble pour les pieds, un câble pour les mains, voilà, de descendre à partie descendante à gauche en forme d'échelle, où c'est très, c'est vraiment super, parce que c'est vrai que du coup on n'est pas perdu. On sait à peu près où il faut aller et c'est bien, ouais, c'est super. C'est agréable, oui.
Un aménagement qui a eu un coût environ 20 000 euros. C'était un sujet de 48 FM pour le carnet de région.
Et maintenant, un anniversaire que j'affectionne tout particulièrement, direction le pont du Gard, Romain.
Et parce qu'il faut dire qu'ici, dans l'Hérault, on a un petit peu le lobby gardois, le pont du Gard qui fête effectivement cette année ses 30 ans, les 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Une année ponctuée d'événements exceptionnels. On retrouve aussi les traditionnels rendez-vous, comme les féeries du pont, qui se tiendront les 12 et 13 juin. Mélanie Arbour Bousset de Delta FM a rencontré Christophe Bertoneau, le directeur artistique du groupe F. Il nous explique comment le spectacle traduira ce thème du patrimoine mondial de l'humanité.
Alors, donc ça c'est le thème annuel du pont du Gard. Nous, on a transcrit ça par des mondes magiques, c'est-à-dire qu'on est parti d'un acte très simple, puisque le pont du Gard fête ses 30 ans d'inscription, hein, puisque le pont du Gard il a plus de 2000 ans. il va faire une petite fête, puis il va inviter ses potes classés, c'est-à-dire ses grands collègues, comme la pyramide de Khéops ou le temple d'Ankorvat. Et donc, il y a une espèce de détente, c'est-à-dire le patrimoine, c'est quelque chose qui peut être très très joyeux. En définitive, tu découvres des perspectives, tu te poses des questions sur comment ça a été construit, et puis surtout, tu vis des chocs esthétiques absolument admirables. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu vois une œuvre, ou que tu vois un nouveau bâtiment, ou une nouvelle architecture, tu enrichis ton propre patrimoine esthétique. Donc tu vas choisir différemment tes meubles, tes chaussures, ton t-shirt, tu vas te coiffer différemment. Donc c'est fabuleux de pouvoir découvrir ces choses-là. Ici, non seulement on va les découvrir, mais en plus on va les intégrer à cet espace-là. C'est-à-dire que on va les déplacer, on va les amener dans la vallée du Gardon. Le site du Pont du Gard, ça fait partie des endroits qui sont magiques. Moi, j'ai la chance de voyager énormément par mon travail et de faire aussi des projets sur d'autres sites importants. Et j'ai fait une dizaine de spectacles sur la Tour Eiffel, j'ai travaillé dans le monde entier, j'ai inauguré la Tour à Dubaï aussi, qui est un des nouveaux monuments, un des monuments du 21e siècle. Je reste absolument charmé par le fait que j'ai l'obscurité, le silence. Ici, au moment où on arrête, on commence le spectacle, il n'y a plus de lumière de la ville, il n'y a plus le vrombissement des voitures, il n'y a plus le son des hélicoptères et des avions. Tu es en pleine nature et tu allumes une allumette, tout le monde la voit. Tu peux jouer la poésie, tu peux jouer la tendresse, tu peux faire parler les crapauds, tu peux t'amuser avec ces choses-là. Et c'est pour ça que, oui, c'est mon pote, je suis très heureux de travailler ici parce que on y est bien, on y est vachement bien. Toute l'équipe dit « Ah, super, on va au Pont du Gard ». C'est pas pareil que de travailler en pleine ville, c'est pas pareil que de se battre avec ce qu'il y a autour. Là, ici, t'as plus qu'à faire. Faut faire correctement, mais t'as plus qu'à faire.
Christophe Bertoneau, directeur artistique du groupe F. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce carnet de région qui vous a été présenté par Romain Bercher. Merci Romain.
Merci Cédric et à la semaine prochaine.
Rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de toutes nouvelles actualités en région Languedoc-Roussillon. Merci d'avoir suivi ce magazine d'actualité de retour la semaine prochaine. Même endroit, même heure. C'était le carnet de région.